Chapitre 3. Journal de Jonathan Harker. Suite. Mais prisonnier ! Quand je compris cela, je crus devenir fou. En courant, je montai et descendis les escaliers à plusieurs reprises, essayant d'ouvrir chaque porte que je rencontrais, regardant anxieusement par toutes les fenêtres devant lesquelles je passais. Mais bientôt, le sentiment de mon impuissance anéantit toute volonté en moi. Et quand j'y songe maintenant que quelques heures se sont écoulées, je me dis que, vraiment, j'étais fou, car, je me rendis compte, je me débattais tel un rat dans une trappe. Une fois cependant que je sus qu'il n'y avait, hélas, rien à faire, je m'assis tranquillement, calme, je crois comme jamais encore je ne l'avais été de ma vie, pour réfléchir à ma situation et chercher comment je pourrais tout de même y remédier. À l'heure qu'il est, j'y réfléchis toujours, sans être parvenu à aucune conclusion. Je suis certain d'une seule chose, c'est qu'il est absolument inutile de faire part au comte de mes sentiments. Mieux que quiconque, il sait que je suis prisonnier ici. Il l'a voulu. Et sans aucun doute a-t-il ses raisons pour cela. Si donc je me confiais à lui, il est trop évident qu'il ne me dirait pas la vérité. Pour peu que je distingue clairement la ligne à suivre, il me faudra taire ce que je viens de découvrir, ne rien laisser soupçonner de mes craintes et garder les yeux ouverts. Je suis, je le sais, ou bien comme un petit enfant abusé par la peur, ou bien dans de beaux draps. Et s'il en est ainsi, j'ai besoin et j'aurai besoin, dans les jours à venir, de toute ma clairvoyance. J'en étais arrivé à ce point de mes réflexions quand j'entendis la grande porte d'en bas se refermer. Le comte était rentré. Il ne vint pas tout de suite dans la bibliothèque, et moi, sur la pointe des pieds, je retournai dans ma chambre. Quelle ne fut pas ma surprise de le trouver là, en train de faire mon lit. Je fus grandement étonné, certes, mais cela eut aussi pour effet de me confirmer ce que je pensais depuis le début, qu'il n'y avait pas de domestique dans la maison, et quand un peu plus tard je le vis par la fente de la porte mettre le couvert dans la salle à manger, je n'en doutais plus, car s'il se chargeait de ses tâches, c'est qu'il n'y avait personne d'autre pour les remplir. Je frissonnais, horriblement, en songeant alors que, s'il n'y avait aucun domestique au château, c'était le comte en personne qui conduisait la voiture qui m'y avait amené. Si telle était la vérité, que signifie ce pouvoir qu'il a de se faire obéir des loups, comme il l'a fait, en levant simplement la main? Pourquoi tous les habitants de Bistritz et tous mes compagnons de diligence nourrissaient-ils de telles craintes pour moi? Pourquoi m'avait-on donné la petite croix, la gousse d'ail, la rose sauvage? Béni soit la brave femme qui m'a mis ce crucifix au cou, car je me sens plus fort et plus courageux chaque fois que je le touche. Je m'étonne qu'un objet que l'on m'a depuis toujours appris à considérer comme inutile et de pure superstition puisse m'être de quelque secours dans la solitude et la détresse. Ce petit crucifix possède-t-il une vertu intrinsèque ou bien n'est-ce qu'un moyen pour raviver de chers souvenirs? Un jour, je l'espère. J'examinerai la question et j'essaierai de me faire une opinion. En attendant, je dois chercher à me renseigner autant que possible au sujet du comte Dracula. Cela m'aidera peut-être à mieux comprendre tout ce qui se passe. Et peut-être ce soir parlera-t-il spontanément si un mot de ma part fait dévier la conversation en ce sens. Toutefois, je le répète, il me faudra être très prudent afin qu'il ne se doute pas de mes appréhensions. Minuit. J'ai eu un long entretien avec le comte. Je lui ai posé quelques questions sur l'histoire de la Transylvanie, et il s'animait en me répondant. Le sujet semblait lui plaire, tandis qu'il parlait des choses et des gens, et surtout quand il parlait de batailles, on eût dit qu'il avait assisté à toutes les scènes qu'il me décrivait. Cette attitude, il me l'expliqua en disant que, pour un boyard, la gloire de sa famille et de son nom, c'est son orgueil personnel, que leur honneur est son honneur, et leur destin, son destin. Chaque fois qu'il parlait de sa famille, il disait « nous », et presque toujours employait le pluriel, ainsi que font les rois. Je voudrais pouvoir reproduire ici exactement tout ce qu'il m'a raconté, car pour moi, ce fut proprement fascinant. Il me semblait entendre toute l'histoire du pays. Il s'excitait de plus en plus, il marchait de long en large dans la pièce, tout en tirant sur sa grande moustache blanche ou saisissant n'importe quel objet sur lequel il mettait la main, comme s'il voulait l'écraser. Je vais pourtant essayer de transcrire une partie de ce qu'il m'a dit, car on peut y retrouver, d'une certaine façon, l'histoire de sa lignée. « Nous, les Séclairs, nous avons le droit d'être fiers, car dans nos veines coule le sang de maints peuples braves et courageux qui se sont battus comme des lions pour s'assurer la suprématie. » Dans ce pays où tourbillonnent différentes races européennes, les guerriers venus d'Islande ont apporté cet esprit belliqueux que leur avaient insufflé Thor et Odin, et ils ont déployé une telle furie sur tous les rivages de l'Europe certes, mais aussi de l'Asie et de l'Afrique, que les gens se croyaient envahis par des loups. En arrivant ici même, ces guerriers redoutables rencontrèrent les Huns, qui avaient porté partout le fer et la flamme, si bien que leur victime agonisante affirmait que, dans les veines de leurs bourreaux, coulait le sang des vieilles sorcières qui, expulsées de Siti, s'étaient, dans le désert, accouplées aux démons. Les imbéciles! Quelle sorcière, quel démon fut jamais aussi puissant qu'Attila, dont le sang coule dans nos veines? S'écria-t-il en relevant ses manches afin de montrer ses bras. Dès lors, faut-il s'étonner que nous soyons une race conquérante et fière, que lorsque les Maillards, les Lombards, les Avars ou les Turcs tentèrent de passer nos frontières par milliers, nous sûmes toujours les repousser. Est-ce étonnant si, lorsque Arpar et ses légions voulurent envahir la mère patrie, ils nous ont trouvés sur la frontière? Puis quand les Hongrois se portèrent vers l'Est, les Maillards victorieux firent alliance avec les Séclairs, et c'est à nous désormais que fut confiée pendant des siècles la garde de la frontière turque. Bien plus, notre vigilance là-bas semblait ne devoir jamais prendre fin, car, selon l'expression des Turcs eux-mêmes, « l'eau dort, mais l'ennemi veille ». Qui donc parmi les quatre nations, reçut plus joyeusement que nous le glaive sanglant, ou se rassembla plus vite autour de l'étendard du roi quand retentit l'appel aux armes? Et quand donc fut lavée la grande honte de mon pays, la honte de Cassova, lorsque les drapeaux des Valaques et des Maillards se sont abaissés sous le croissant? Et n'est-ce pas un Démien qui traversa le Danube pour aller battre le Turc sur son propre sol? Oui, c'est un Dracula. Maudit soit son frère indigne qui vendit ensuite le peuple aux Turcs et qui fit peser sur tous la honte de l'esclavage. N'est-ce pas ce même Dracula qui légua son ardeur patriotique à l'un de ses descendants qui bien plus tard traversa de nouveau le fleuve avec ses troupes pour envahir la Turquie? Et qui, ayant battu en retraite, revint plusieurs fois à la charge, seul et laissant derrière lui le champ de bataille où gisaient ses soldats, parce qu'il savait que finalement, à lui seul, il triompherait. On prétend qu'en agissant ainsi, il ne pensait qu'à lui. Mais à quoi serviraient des troupes si elles n'avaient un chef? Où aboutirait la guerre s'il n'y avait, pour la conduire, un cerveau et un cœur? De nouveau, lorsqu'après la bataille de Mohac, nous parvînmes à rejeter le joug hongrois, nous, les Dracula, nous fûmes une fois encore parmi les chefs qui travaillèrent à cette victoire. Ah, jeune homme, les Séclairs et les Dracula ont été leur sang, leur cerveau et leur épée. Les Séclairs peuvent se vanter d'avoir accompli ce que ces parvenus, les Habsbourg et les Romanov, ont été incapables de réaliser. Mais le temps des guerres est passé. Le sang est considéré comme chose précieuse en notre époque de paix déshonorante, et toute cette gloire de nos grands ancêtres n'est plus qu'un beau conte. Lorsqu'il se tut, le matin était proche, et nous nous séparâmes pour aller nous coucher. Ce journal ressemble terriblement au conte des mille et une nuits, car tout cesse au premier chant du coq, et sans doute fait-il songer ainsi à l'apparition devant Hamlet du fantôme de son père. 12 mai. Qu'on me permette d'exposer des faits dans toute leur nudité, leur crudité, tels qu'on peut les vérifier dans les livres et dont il est impossible de douter. Il me faut prendre garde de ne pas les confondre avec ce que j'ai pu moi-même observer ou avec mes souvenirs. Hier soir, Lorsque le comte a quitté sa chambre pour venir me retrouver, tout de suite il s'est mis à m'interroger sur des questions de droit et sur la façon de traiter certaines affaires. Justement, ne sachant que faire d'autre et pour m'occuper l'esprit, j'avais passé la journée à consulter plusieurs livres, à revoir divers points que j'avais étudiés à Lincoln's Institute. Comme dans les questions que m'offrit mon hôte, il y avait un certain ordre, je vais essayer de respecter cet ordre en les rappelant ici. Cela me sera peut-être utile un jour. D'abord, il me demanda si en Angleterre, on pouvait avoir deux solliciteurs à la fois ou même plusieurs. Je lui répondis qu'on pouvait en avoir une douzaine si on le désirait, mais qu'il était cependant plus sage de n'en prendre qu'un pour une même affaire. Qu'en ayant recours à plusieurs solliciteurs en même temps, le client était certain d'agir contre ses propres intérêts. Le comte sembla parfaitement comprendre cela, et il me demanda alors s'il y aurait quelques difficultés d'ordre pratique à prendre par exemple un solliciteur pour veiller à des opérations financières et un autre pour recevoir des marchandises expédiées par bateau, au cas où le premier solliciteur habiterait loin du tout port. Je le priai de s'expliquer plus clairement afin que je ne risque pas de me méprendre sur le sens de sa question. Il reprit. « Eh bien, dit-il, supposons ceci. Notre ami commun, maître Peter Hawkins, à l'ombre de votre belle cathédrale d'Exeter, laquelle se trouve assez loin de Londres, achète pour moi et par votre intermédiaire une demeure dans cette dernière ville. Bon. Maintenant, laissez-moi vous dire franchement, car vous pourriez trouver bizarre que je me sois adressé pour cette affaire à un homme qui réside aussi loin de Londres et non pas tout simplement à un Londonien, que je tenais à ce qu'aucun intérêt particulier ne vienne contrecarrer le mien propre. Or, un solliciteur londonien aurait pu être tenté, dans pareille transaction, de chercher un profit personnel ou de favoriser un ami. C'est pourquoi j'ai préféré chercher ailleurs un intermédiaire qui, je le répète, servirait au mieux mes propres intérêts. Supposons, à présent, que moi, qui fais beaucoup d'affaires, je veuille envoyer des marchandises, mettons, à Newcastle, ou à Durham, ou à Harwich, ou à Douvres. N'aurais-je pas plus de facilité en m'adressant à un homme d'affaires installé dans l'un ou l'autre de ces ports ? Je lui répondis que certainement ce serait plus facile, mais que les solliciteurs avaient créé entre eux un système d'agence permettant de régler toute affaire locale d'après les instructions de n'importe quel solliciteur. Le client peut ainsi confier ses intérêts à un seul homme et ne plus s'occuper de rien. « Mais, reprit-il, dans mon cas, pourrais-je moi-même diriger l'affaire ?»« Naturellement, fis-je. » Cela se voit bien souvent lorsque l'intéressé ne désire pas que d'autres personnes aient connaissance des transactions en cours. « Bon, dit-il. » Puis il s'informa de la façon dont il fallait s'y prendre pour faire des expéditions, me demanda quelles étaient les formalités exigées et à quelles difficultés on risquait de se buter si l'on n'avait pas songé auparavant à prendre certaines précautions. Je lui donnai toutes les explications dont j'étais capable, et je suis sûr qu'en me quittant, il dut avoir l'impression d'être passé à côté de sa vocation. Il aurait rempli à la perfection la profession de solliciteur, car il n'y avait rien à quoi il n'eût pensé, rien qu'il n'eût prévu. Pour un homme qui n'était jamais allé en Angleterre et qui, évidemment, n'avait pas grande pratique des choses de la loi, ses connaissances à ce sujet et aussi sa perspicacité étaient étonnantes. Lorsqu'il eut tous les renseignements qu'il désirait et que, de mon côté, j'eus vérifié certains points dans les livres que j'avais sous la main, il se leva brusquement en me demandant « Depuis votre première lettre, avez-vous de nouveau écrit à votre ami maître Peter Hawkins ou à d'autres personnes ?» Ce ne fut pas sans quelque amertume que je lui répondis que non, que je n'avais pas encore eu l'occasion d'envoyer aucune lettre à mes amis. « Alors, écrivez maintenant, » dit-il en appuyant sa lourde main sur mon épaule. « Écrivez à maître Peter Hawkins et à qui vous voulez, et annoncez, s'il vous plaît, que vous séjournerez ici encore un mois à partir d'aujourd'hui. Vous désirez que je reste ici si longtemps ? Fis-je en frissonnant à cette seule pensée. Exactement, je le désire, et je n'accepterai aucun refus. Quand votre maître Votre patron, peu importe le nom que vous lui donnez, s'engagea à m'envoyer quelqu'un en son nom. Il a été bien entendu que je m'emploierais ses services comme bon me semblerait. Pas de refus. Vous êtes d'accord. Que pouvais-je faire sinon m'incliner? Il y allait de l'intérêt de Maître Hawkins, non du mien, et c'est à Maître Hawkins que je devais penser, non à moi. En outre, pendant que le comte Dracula parlait, un je ne sais quoi dans son regard et dans tout son comportement me rappelait que j'étais prisonnier chez lui, et que, l'aurais-je voulu, je n'aurais pas pu abréger mon séjour. Il comprit sa victoire à la façon dont je m'inclinais et vit au trouble qui parut sur mes traits que décidément il était le maître. Aussitôt il exploita cette double force en poursuivant avec cette douceur de ton habituel chez lui et à laquelle on ne pouvait résister. Je vous prie avant tout, mon cher et jeune ami, de ne parler dans vos lettres que d'affaires. Sans doute vos amis aimeront-ils savoir que vous êtes en bonne santé, que vous songez au jour où vous serez de nouveau auprès de cela aussi, vous pouvez leur dire un mot. Tout en parlant, il me tendit trois feuilles de papier et trois enveloppes. C'était du papier très mince, et comme mon regard allait des feuilles et des enveloppes au visage du comte, qui souriait tranquillement, ses longues dents pointues reposant sur la lèvre inférieure très rouge, je compris aussi clairement que s'il me l'avait dit, que je devais prendre garde à ce que j'allais écrire, car il pourrait lire le tout. Ainsi décidai-je de n'écrire ce soir-là que des lettres brèves et assez insignifiantes, me réservant d'écrire plus longuement, par après et en secret, à Maître Hawkins ainsi qu'à Mina. À Mina, il est vrai, je pouvais écrire en sténographie ce qui, et c'est le moins qu'on en puisse dire, embarrasserait bien le comte s'il voyait cet étrange griffonnage. J'écrivis donc deux lettres, puis je m'assis tranquillement pour lire, tandis que le comte s'occupait également de correspondance, s'arrêtant parfois d'écrire pour consulter certains livres qui se trouvaient sur sa table. Son travail terminé, il prit mes deux lettres qu'il joignit aux siennes, plaça le paquet près de l'encrier et des plumes et sortit. Dès que la porte se fut refermée derrière lui, je me penchai pour regarder les lettres. Ce faisant, je n'éprouvai aucun remords car je savais qu'en de telles circonstances, je devais chercher mon salut par n'importe quel moyen. Une des lettres était adressée à Samuel F. Pellington, numéro 7, The Crescent, Whitby. Une autre à Herr Leutner, Farna. La troisième à Coutts & Co., Londres. Et la quatrième à Ehren Klopstock, Billreuth, banquier à Budapest. La deuxième et la quatrième de ces lettres n'étaient pas fermées. J'étais sur le point de les lire. Quand je vis tourner lentement la clenche de la porte, je me rassis. N'ayant eu que le temps de replacer les lettres dans l'ordre où je les avais trouvées et de reprendre mon livre avant que le comte, tenant une autre lettre en main, n'entrât dans la pièce. Il prit une à une les lettres qu'il avait laissées sur la table, les timbra avec soin, puis, se tournant vers moi, me dit « Vous voudrez bien m'excuser, je l'espère, mais j'ai beaucoup de travail ce soir. » Vous trouverez ici, n'est-ce pas, tout ce dont vous avez besoin. » Arrivé à la porte, il se retourna, attendit un moment et reprit. « Laissez-moi vous donner un conseil, mon jeune ami, ou plutôt un avertissement. S'il vous arrivait jamais de quitter ces appartements, nulle part ailleurs dans le château, vous ne trouveriez le sommeil, car ce manoir est vieux. Il est peuplé de souvenirs anciens, et les cauchemars attendent ceux qui dorment là où cela ne leur est pas permis. Soyez donc avertis. Si à n'importe quel moment vous avez sommeil, si vous sentez que vous allez vous endormir, alors regagnez votre chambre au plus vite, ou l'une ou l'autre de ces pièces-ci, et de la sorte vous pourrez dormir en toute sécurité, mais si vous n'y prenez garde. » Le ton sur lequel il avait prononcé ces dernières paroles sans même achever sa phrase avec quelque chose de propre à vous faire frémir d'horreur. En même temps, il eut un geste comme pour signifier qu'il s'en lavait les mains. Je compris parfaitement. Un seul doute subsistait à présent pour moi. Se pouvait-il qu'un rêve, n'importe lequel, fût plus terrible que ce filet aux mailles sombres et mystérieuses qui se refermait sur moi ?